Radio Foot International, Annie Gasnier.
Rossia Dobridien, bonjour à tous et bienvenue dans Radio Foot International. Merci de nous rejoindre sur RFI dans cette nouvelle émission via les ondes bien sûr, mais aussi via la page Facebook Live de RFI et de Radio Foot aussi d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, veille de quart de finale et veillée d'armes à Radio Foot. Demain, les Bleus joueront face à la Celeste uruguayenne alors que la Celeste retrouvera les Diables Rouges. Deux matchs qui promettent donc du suspense, du spectacle et qui sait peut-être des buts. Les Bleus auront devant eux en tout cas un mur bleu ciel qui, pour le contourner, Kylian Mbappé peut-être, ou bien Griezmann ou d'autres, et qui pour remplacer Matuidi d'un côté et El Matador de l'autre, si vraiment Cavani ne dispute pas ce match. France et Uruguay se jaugent souvent sans parvenir à se départager, mais là, il faudra un vainqueur. Nous allons d'ailleurs disséquer cette confrontation avec l'aide d'un Uruguayen, un supporter mais qui vit chez les Bleus. Bonjour Carlos. Alors je vous appelle Carlos mais c'est Pájaro Canzani, c'est peut-être
plus
simple.
Facile de dire Carlos.
Carlos, bonjour. Pour nos auditeurs, bonjour. Vous êtes parisien depuis une quarantaine d'années.
Oui, je suis arrivé ici en 77.
Voilà.
Quand Carlo Bianchi était la superstar du football français.
En France. Et vous êtes musicien, compositeur. Vous avez d'ailleurs composé cet hymne qui était un hymne de la Copa América qui se disputait en Uruguay en 1995. Vous êtes un passionné de football.
Oui.
Comme tout Uruguayen qui se doit.
La chanson clairement commence en disant « Le football, c'est l'art de mon pays, un art qui se vit avec sincérité ».
Et vous avez l'art de la musique et pas l'art du football ?
J'ai joué au football comme tout Sud-Américain depuis l'âge de 6 ans, en compétition dans ce qu'on appelle chez nous le baby foot. Et je jouais en première division de match à 16 ans, quand l'équipe de nationale n'avait plus de chance. Donc c'est là qu'on essaye les petits qui arrivent. Ouais. Voilà, et ensuite j'ai eu une blessure. Et en même temps, on m'a proposé de venir dans un festival où on cherchait de nouveaux talents et j'ai gagné ce festival, donc la vie a décidé.
La vie a décidé pour vous. Bon, en tout cas, Pájaro Canzani, on va vous entendre sur ce match de demain. L'autre grand rendez-vous se disputera à Sochi, Brésil-Belgique, des Canaries face à des Diables Rouges, Neymar et Coutinho face à Lukaku et Hazard. Deux équipes qui nourrissent de grandes ambitions en territoire russe et qui ont la même caractéristique de jeu. Y a-t-il un favori ? Question que nous poserons et bien notamment à Karine Galli. Bonjour Karine.
Bonjour Annie.
Notre
bonjour
poupée russe du jour, puisqu'elle arrive tout droit de Moscou.
Cinq jours absolument exceptionnels. En tout cas, ce que j'ai vu de la Russie m'a beaucoup plu, donc je conseille à tout le monde de découvrir ce pays et cette belle ville, parce que c'était génial. J'étais plus gâtée par la ville et par les gens que j'ai rencontrés que par les deux matchs que j'ai vus, parce que j'ai pas eu trop de chance.
Vous avez vu quoi ?
J'ai vu Espagne-Russie, c'était pas le meilleur match de la Coupe du Monde. Et j'ai vu Angleterre-Colombie. Alors j'ai adoré la folie et la ferveur colombienne parce que j'étais vraiment avec les Colombiens. Mais bon, en termes de match et de scénario et de qualité, c'était pas ce qu'il y avait de mieux.
Il y a mieux. Shérif Guémour de SoFoot, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Shérif à vos côtés. Et puis nous avons un autre Carlos à côté de Carlos Pájaro Canzani, c'est Carlos Bianchi. Bonjour Carlos.
Bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Ça va très bien. Tu voulais que. Toi, tu souhaites que je sois triste ?
Non, c'est,
je suis pas triste.
Si vous alliez bien. Et demain, vous allez être pour qui alors ? Est-ce que c'est pas Argentine-Uruguay, c'est France-Uruguay ?
Tu sais qu'ils m'ont fait un reportage, et là, ça fait pas longtemps, dans le Parisien, et je dis que j'ai de l'admiration pour les Uruguayens, parce qu'ils sont pas deux couilles, ils sont quatre couilles.
Bon, comprends ? Ça, c'est du langage de vestiaire.
Je suis plus français qu'Uruguayen.
Donc vous avez soutenir la France.
J'ai des petits-fils français.
Carlos,
alors.
Mardi, il y avait un anniversaire, non, pour vous, écoutez.
Riquelme que le pega. Gol.
Sartori en contra a los 6 minutos. Lo marcaba Palermo, pero cabeció él. Boca ganaba 1-0. Ahora, con todo el tiempo del mundo, el turno de Riquelme. Boca ganaba 4-0 el primer tiempo, pero perdía a Guillermo Barros de Esqueloto, desgarrado.
Il y a 20 ans, vous débarquez.
C'est le premier match que je dirigeais Boca. Ouais,
exactement.
4-0, mené à la mi-temps.
Vous vous en souvenez, donc, avec Riquelme, notamment. Hein.
Quel joueur. Hein.
Bon anniversaire, Carlos.
Merci beaucoup. Ça passe vite, mon Boca, déjà, ça fait 20 ans déjà. Qu'est-ce que j'étais beau et jaune. J'avais plus de cheveux. Et j'avais plus de cheveux, en plus. Oui.
Ça va, ça vient.
Ça arrive. Radio Foot, c'est parti.
Direction la Russie, pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.
France-Uruguay, deux pays qui partagent beaucoup de choses en dehors des pelouses, deux siècles de liens diplomatiques toujours actifs, la laïcité pour dogme et une langue française longtemps pratiquée sur les rives du Rio de la Plata où sont nés les grands poètes Gilles Supervielle et Lautré Hamon, entre autres. Et puis il y a eu Enzo Francescoli, Pablo Correa, Diego Lugano et Edinson Cavani, des Uruguayens qui ont évolué dans le championnat de France. Chez nous, il y a Antoine Griezmann, l'attaquant des Bleus qui ne cache pas son attachement à ce petit pays d'Amérique du Sud, car plusieurs Uruguayens ont facilité son adaptation en Espagne lorsqu'il était adolescent, émigré à la Real Sociedad.
Ça a commencé à la Real Sociedad où mon entraîneur était uruguayen. C'est vraiment une nationalité que j'adore, des gens que j'adore. Et après, qu'est-ce que j'ai d'uruguayen? Je pense un peu le style à Cavani et à Diego, qui lâchent rien, qui donnent tout et qui font les efforts pour les coéquipiers.
Alors, comme un Uruguayen, il se balade partout avec son maté, n'est-ce pas, Carlos? Hein, on le remarque quand on est sud-américain.
Ça, c'est une habitude des Uruguayens, des Argentins.
Des Paraguayens aussi.
Des Paraguayens, oui.
Beaucoup.
Mais plutôt les Uruguayens et les
Argentins. C'est une sorte de thé vert, hein, d'une herbe verte sud-américaine. On se balade avec le thermos, en fait, sous le bras.
Il faut l'aimer. Moi, je bois du maté à 5h du matin, 5h30 du matin, quand je me réveille. Toute ma vie, j'ai bu du maté. Mais quand tu n'as pas l'habitude, tu sais, c'est amer. C'est pas quelque chose
de pauvre. Moi, c'est pareil. Quand je regarde un match de foot, la première chose que je fais, je prépare le maté. Et après, je suis concentré devant le match.
Ah ben on voit justement notre petit grisou se balader partout avec sa thermos et son maté. Luis Suarez, alors il ne met plus la main, il ne mord plus, mais il a quand même taclé Griezmann en évoquant ce côté uruguayen. Il a quelques doutes.
Malgré ce que les médias disent, Antoine est français. Il ne connaît pas le sentiment d'être uruguayen. Il ne sait pas le don de soi, ni les efforts qu'il faut fournir quand on est gamin pour réussir dans le foot dans un aussi petit pays. Nous, on sait ce que c'est. Il vit avec nos coutumes et notre façon de parler, mais ce sentiment, il ne l'aura jamais.
Carlos Candani, qu'est-ce que c'est alors avoir le sentiment uruguayo, le sentiment uruguayen qu'il conteste, Luis Suarez?
Je pense que Luis, qui vient de Salto, qui est une ville de Provence, parle de ce qui signifie pour un gars de Provence de pouvoir arriver à Montevideo, parce que l'Uruguay, c'est un pays très centralisé. Donc, si on veut faire quelque chose dans la vie, dans n'importe quel métier, il faut aller à Montevideo. C'est un pari terrible. Et donc, il faut aller s'essayer ou attirer l'attention d'un club de Montevideo pour devenir un candidat à prendre une place dans une équipe. Et c'est beaucoup de sacrifices. Et la plupart des joueurs viennent d'origine et des classes sociales très basses.
Modestes. Mmh.
C'est pas la même chose en France où la plupart des gens ont un niveau de vie supérieur, même si ce sont des familles humbles. Et donc, il y a beaucoup plus accès à l'information, etc. C'est beaucoup plus facile du point de vue matériel. Je crois que c'est de ça qu'il parle.
Oui, même si, on le sait, Griezmann, Karine, est passé lui aussi par un chemin de croix un peu, parce qu'il vient de la province, il vient de Mâcon. En fait, son chemin pour arriver à Paris, c'était compliqué.
Voilà, lui, évidemment, les histoires ne sont pas comparables, mais c'est quand même un jeune qui a été recalé des différents centres de formation français parce qu'on le pensait trop frêle et parce qu'on pensait qu'il n'était pas apte à devenir un footballeur de haut niveau parce que les standards à l'époque n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, il a une histoire aussi particulière. Il a un vrai amour pour l'Espagne et pour l'Uruguay, alors qu'il est français et il a galéré, on va dire aussi, quand même, par rapport à
Je vais vous raconter une anecdote qui illustre vraiment l'histoire. Je suis très copain depuis qu'on est jeune du papa de Álvaro Recoba, El Chino Recoba.
Qui était en 2002 dans la sélection face à la France.
Et El Chino Recoba vient d'une famille très humble. Et son papa m'a invité un jour pour me montrer qu'il avait acheté une maisonnette près de la plage, du mauvais côté de la plage, disons. Quand je suis rentré dans la maison, il y avait toute la famille, y compris la grand-mère qui habitait là, et donc une famille nombreuse. Et le sol de la maison à l'intérieur, c'était de la terre battue. Et les premiers salaires de Chino Recoba, quand il a été transféré de Danubio, le même club qui a formé Cavani, à Nacional, qui est un des deux clubs...
Des grands clubs de Montevideo.
Voilà. Les premiers salaires ont servi à mettre... Un sol en ciment dans la maison.
Ça illustre. Ça illustre effectivement.
On a tous passé par là. Hein.
Ouais.
La plupart des joueurs de football, c'est comme les boxeurs. Les boxeurs des États-Unis au basket, les joueurs de basket. On vient tous des classes moyennes vers le bas.
Mmh. Ouais. Et c'est ensuite évidemment l'importance des enfants. En tout cas, Antoine Griezmann le dit très bien, hein, il admire, il a eu beaucoup d'Uruguayens sur son chemin. Mais pour ce qui est de la Coupe du Monde et de ces deux équipes, c'est la quatrième fois qu'elles vont se retrouver. Alors la première fois, c'était en 1966, et cette fois-là, c'était justement la Céleste qui l'avait emportée. Je crois que c'était 2-0, hein, 2-0. Le score. Voilà, 2-0. Et ensuite, eh bien, il y a eu deux matchs nuls et sans but en 2002 et en 2010, à un moment d'ailleurs où l'équipe de France avait besoin de buts pour réussir à rester dans la compétition, elle n'y était pas restée. Quand même, il y a eu un petit moment où il y a eu aussi un match nul, mais qui s'est mieux terminé pour les Français, c'était en 2013, et ils avaient moins de 20 ans, les Français.
On peut être que fiers de nous, j'ai pas été le seul et on est très satisfaits.
Il y a ça, on est champion du monde ou pas?
Non.
Mais c'est qui les champions du monde? Mais c'est qui alors? C'est dédicace à la France.
Dédicace à la France.
On est champions, on est tous ensemble. C'est le grand jeu, la France est debout. Votre passion toujours nous rassemble. Allez les bleus, on est tous avec vous.
2013, la Coupe du Monde, donc c'était France-Uruguay et la France a fini par gagner. Il y avait notamment déjà Pogba dans les rangs. Exactement, c'était des moins de 20 ans qui vont se retrouver face à face, Shérif.
Oui, on se retrouve. Juste un petit point d'histoire. C'est que, en fait, la première Coupe des Confédérations non officielle, c'était justement un match entre le champion d'Europe français en 84, l'équipe de Platini, contre l'Uruguay. Et la France avait gagné 2-0. Donc c'était un peu embryonnaire, c'était la Coupe des Confédérations. Et en fait, il y en a qui la revendiquent comme première
victoire,
deuxième titre international français. Ouais. Mais on avait battu l'Uruguay 2-0.
Les moins de 20 ans.
Oui, moi j'avais
maintenant
suivi
ils ont 25 ans.
J'avais suivi
ans.
La compétition pour Eurosport à l'époque et effectivement, et on peut imaginer qu'on aura deux titulaires demain champions du monde des moins de 20 ans, c'est-à-dire Umtiti et Pogba. Et ils avaient fait un beau parcours et à l'époque c'était Areola le gardien qui avait été extraordinaire en fin de compétition et c'était l'un des grands artisans de cette victoire. Alors à l'époque il y avait Kondogbia, il y en avait plein d'autres qui aujourd'hui sont plus forcément appelés en équipe de France, mais Pogba avait été grand lors de cette compétition. Titi aussi, et ils le sont avec l'équipe de France 4 ans après.
Oui, il y a eu ces matchs nuls 0-0 au Stade de France, juste avant...
En 2002
ouais, non, c'était juste avant l'Afrique du Sud. C'était un 2010. Match de préparation. Mm-hmm. Et l'Uruguay avait joué avec un maillot rouge. À la maison, j'ai le maillot numéro 7.
Le match 1-0.
J'ai le maillot numéro 7 de Cebolla Rodriguez, parce qu'il venait souvent manger des riades à la maison, parce qu'à l'époque, il jouait au PSG.
Alors, comment imaginer quelle allure aura ce match, Carlos, demain? On imagine, beaucoup disent, oh là là, ça va être compliqué, il n'y aura pas beaucoup de spectacles.
En tout cas, je pense que ça va être plus beau.
À cause
Brésil
des 0-0.
Et tu sais, l'Uruguay, il a un jeu contre-attaque. Il pense toujours à contre-attaquer. Pas attaquer. Il te fait cadeau du milieu terrain. Même s'il y a des fois qu'il essaye d'avoir la possession du ballon, eux, ils perdent le ballon, ils jouent un petit peu comme Atlético de Madrid. D'accord ? Et il y a deux attaquants qui sont très forts. Il y a deux milieux de terrain du côté à droite, à gauche, qui s'engagent continuellement. Et il joue avec ces deux attaquants. Demain, il manquera un. Cavani, il sera pas là.
Il sera pas là, ou on va en parler tout à l'heure.
Et ça va être, et il va jouer Stuani. Stuani n'est pas mauvais, parce qu'il a fait un très bon championnat d'Espagne.
Ouais.
Alors,
un but, hein.
La France, il a une mentalité, parce que Deschamps, pour moi, c'est un, il a une grosse culture italienne, hein, pour avoir joué tellement des années là-bas. Et alors, il aime bien les contre-attaques aussi. Alors, je crois pas qu'à l'Uruguay, il va le prendre en porte-défaut. Il va pas le prendre en contre-attaque. Et ça va être un match très calculé, très froid. Je ne vois pas un match de football qui... Ouais.
Pas France-Argentine, quoi.
Ouais, ça sera tout le contraire, a priori. Enfin, ouais. On imagine deux équipes et deux blocs qui vont s'attendre et...
Ouais, c'est ça.
Le score devrait être de 1-0.
Ouais, voilà. Enfin, pas un festival.
Ouais. Voilà. Les derniers scores.
Les derniers scores entre ces deux équipes.
Ouais. Ça dépend. Moi, je pense que, tactiquement, l'Uruguay a une carte à jouer. L'équipe de France est tellement anarchique. Je veux dire, ils prennent beaucoup de buts. C'est une équipe, qui défend mal, qui sait mal se disposer. L'Uruguay attend pendant une heure et demie. Moi, je trouve que c'est dommage. Il y a de quoi exploiter le désordre tactique de l'équipe de France. Une équipe qui prend beaucoup de buts, qui laisse beaucoup d'espace. Donc, à mon avis, on va voir. De toute façon, ça va être un match d'entraîneur. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais Tabarez, il devrait tenter quelque chose.
Non, il va pas changer.
Non,
mais il va pas changer.
Le truc, c'est que, alors j'y arrive, c'est qu'il ne va pas changer.
Ça fait 12 ans qu'il est comme ça, l'Uruguay.
Voilà. Et inversement, l'équipe de France, ils ont cette petite lueur de folie.
Avant, ils jouaient un peu plus offensif parce qu'il y avait, en plus, ils avaient Forlan. Ouais. Ils étaient trois attaquants.
Oui, bien sûr.
Et
oui.
C'était fort là.
Ouais.
Mais maintenant, ils ne sont pas trois attaquants. Alors, ils jouent avec deux attaquants.
Alors, peut-être tant pis pour eux.
Pajaro, quel style de match vous attendez-vous?
Alors, je pense que
d'une façon générale, on va rentrer dans les détails.
Ça va être un match où le mètre carré va coûter très cher, surtout au milieu du terrain.
Comme à Paris.
Je pense que l'Uruguay va tout faire pour fermer la route des montées de Pogba. Laissez pas beaucoup d'espace à Griezmann. Il va y avoir un super duel entre Laxalt et Mbappé. Et je pense que, comme dit Carlos, l'Uruguay va tenter ses chances sur les côtés. Et puis l'Uruguay, n'oublions pas, c'est une équipe qui est très très forte en ballon arrêté. Et il y a des très bons joueurs de tête, très très bons. Et puis, un coup franc, on l'a déjà vu, hein,
ouais,
Una
oui.
Suarez.
Qui peut tout changer. Une chose avant qu'on aille voir, écouter Antoine Grenier, notre envoyé spécial auprès des Bleus à Istra. L'arbitre a été désigné avant ce match et il s'agit d'un Argentin qui s'appelle Nestor Pitana et qui, en fait, a déjà officié en Coupe du Monde. Et là, justement, c'était en 2014, il avait arbitré le France-Allemagne. Les deux équipes sont mécontentes. Est-ce qu'on comprend pourquoi ?
Moi, non. Non, mais honnêtement, pour moi, c'est un procès avant même qu'il y ait eu un match. Je suis désolé, il faut qu'il y ait un arbitre. Est-ce que cet arbitre a plutôt bien assuré pendant la compétition ? Oui. Et le fait de dire la France a éliminé l'Argentine, donc c'est un problème, c'est un faux débat. Parce que lorsque parfois ce sont des arbitres, on va dire, de petits pays, de pays qui sont pas forcément des pays de foot, on dit qu'ils connaissent rien au foot. Donc de toute façon, je trouve toujours des excuses.
Il y a toujours quelque chose à dire. C'est arrivé le dernier jour. Ça fait... Quand c'était la dernière journée avec l'arbitre américain, les États-Unis.
Mm-hmm.
Il était dépassé.
Oui,
il était complètement.
Colombie-Angleterre, effectivement.
France-Uruguay pour Pitana.
Ça va être rude. C'est...
Non, ça va pas être grand chose parce que c'est plus difficile de diriger un match en Argentine ou un match en Uruguay.
Donc
c'est
il a l'habitude.
C'est plus difficile.
Et visiblement, parce que il y a un collègue qui me disait qu'il avait arbitré aussi pendant la Coupe des Confédérations l'an dernier aussi. Il me disait que c'était plutôt un arbitre qui laissait énormément jouer et qui arrêtait pas systématiquement le jeu.
Très bonne condition physique en
voilà.
plus.
Et qui n'était pas tout le temps avec le sifflet auprès
de la bouche. Il laisse jouer.
Pajaro ?
Ça
peut avoir une importance ou pas ?
Non, mais pour moi, ce n'est pas important. Je dis toujours qu'un bon arbitre, c'est celui qui est transparent dans les matchs, qui n'attire pas l'attention, qui n'attire pas les caméras. Pitana, il a une très forte personnalité, il aime bien la caméra. Mais je pense qu'à partir des quarts, il faut des personnalités très fortes pour contrôler les matchs, comme disait Carlos. L'arbitre états-unien qui a fait Colombie-Angleterre. Le match lui a échappé.
Oui, oui, on a
lui a échappé. À un moment donné, les gars, il était
perdu. Attention, Carlos. Nous sommes uruguayen argentin. Diriger un match où il y a des Sud-Américains, il n'y a pas de choses plus mauvaises. On est trop tricheurs. Trop tricheurs.
Bon,
trop.
Donc l'arbitre au moins le sait.
Patrick,
il est averti.
Trop.
Il est averti.
Et puis Carlos peut le dire. Vu qu'il est sud-américain, il peut le dire. Nous, on aurait pu dire.
C'est pour ça, moi je dis la vérité.
Il faut un patron dans le.
Ouais. Et ben alors ça sera Nestor Pitana et on verra si on le voit
les
beaucoup
gars,
ou pas d'ailleurs.
Ce qu'ils ont fait à qui c'était à Neymar, c'est qu'ils ont marché par-dessus.
Ouais, Neymar, oui. Mm-hmm. Le Mexicain.
Pourtant, il y a la VAR, il n'a pas été utilisé.
En tout cas, le match de demain vaut donc une place en demi-finale. L'équipe de France était sortie, on s'en souvient, en 2014, en quart de finale, au Brésil, arrêtée par l'Allemagne sur un but de Mölls, et où l'actuel patron de la défense, Raphaël Varane, n'avait pas été vraiment exempt de reproches. Cette équipe, en 2018, est-elle prête? Est-elle prête à se hisser en demi-finale? La question a été posée tout à l'heure au capitaine Hugo Lloris.
C'est difficile de comparer les générations, les années. Je crois que cette équipe de France est très talentueuse. Certains joueurs y étaient en 2014 et ça peut servir de repère et d'expérience par rapport au match de demain. Même si également il y a eu cette aventure à l'Euro qui peut nous servir davantage en termes de vie commune et d'expérience commune. Et par rapport à Raphaël, il y a également un historique. Durant ses 4 ans, il a gagné des Ligues des Champions, il s'est imposé au Real Madrid. Je pense qu'il montre ses qualités de leader, également de défenseur centrale avec l'équipe de France depuis de nombreux matchs maintenant, que ce soit Raphaël ou que ce soit tous les joueurs qui étaient présents en 2014, voilà, ça fait 4 années, ça fait peut-être plus de 40 matchs en plus avec l'équipe de France, donc c'est une expérience supplémentaire et qui peut nous aider également demain parce qu'en face, il y a une équipe très expérimentée avec des joueurs à plus de 100 sélections et ça peut faire la différence, donc voilà.
Faire la différence et avoir plus d'expérience, s'en servir. Voilà ce que disait Hugo Lloris ce matin. Antoine Grenier, vous y étiez justement à cette conférence de presse. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors vous n'étiez pas en 2014 au Brésil, mais vous les avez vus depuis les Bleus évoluer. Est-ce que vous pensez, comme Hugo Lloris, que cette équipe a acquis de l'expérience et de la maturité?
Ça dépend, on se base sur quel match, Annie, celui contre le Pérou ou celui contre l'Argentine? Parce que c'est une équipe de France et une défense notamment qui a affiché plusieurs visages lors de cette compétition. La charnière Varane-Umtiti pose régulièrement des problèmes parce qu'elle prend beaucoup de buts, cette charnière. Contre le Pérou, la France avait réussi à ne pas prendre deux buts. Elle avait pris un but sur pénalty contre l'Australie. Et puis, contre l'Argentine, elle en a pris trois. Donc, dire que l'équipe de France a acquis de l'expérience individuellement, c'est tout à fait vrai. Hugo Lloris, Raphaël Varane, Blaise Matuidi qui sera pas là demain... puisqu'il est suspendu, Antoine Griezmann était là en 2014, donc peuvent apporter cette expérience, mais on voit que sur un match, tout peut être remis en cause. La solidité défensive de l'équipe de France, lors de la phase de groupe, elle n'a pas valu grand-chose contre l'Argentine.
Qu'est-ce que vous en pensez, Chérif Guémour, de cette expérience finalement acquise plus individuellement qu'en groupe?
Ouais, ça se tient. Enfin, moi, je trouve qu'ils n'ont pas tellement progressé tactiquement. D'où le problème d'ailleurs de remplacer Matuidi. On se rend compte qu'on a trois possibilités avec Fekir,
Lemar
et le troisième
Tolisso.
Déjà les trois n'ont pas le niveau international, ils sont pas au niveau, je veux dire déjà mentalement, et puis surtout c'est dur de s'inscrire dans un collectif qui est pas bien établi. Donc moi, ce qui me fait espérer dans cette équipe de France, c'est le grand folie, ce qu'on en rugby on appelle le French Flair, que moi j'ai vu pendant une demi-heure contre la Colombie. Il y a que ça qui me fait espérer en match amical
contre la Colombie.
Oh, en match amical.
Avant la
Oui, voilà,
avant la
c'est ça. Et je m'accroche à ça. On l'a vu contre l'Argentine. Mm-hmm. C'est, voilà, des petites étincelles, des fulgurances. Tout d'un coup, il y a des combinaisons, y compris le but de Pogba contre le Pérou. Il y a une combinaison qui sort. Et, voilà, pour le reste, alors, le gros avantage de cette équipe de France, c'est qu'elle est jeune, un peu comme l'équipe d'Angleterre. Donc, elle est capable encore de multiplier les efforts, de courir. Ils adorent courir, de toute façon. Beaucoup dans le vide, mais bon, ça, c'est leur problème. Et, voilà, c'est une équipe anarchique.
C'est pas celle qui court le plus cependant.
Non, mais c'est on est tous circonspects. Alors il y a du plus, il y a du moins. A priori, s'il y a une équipe d'Uruguay intelligente, ils peuvent éliminer la France parce que il y a facilement, c'est facile d'exploiter les failles d'organisation de l'équipe de France. Et puis il y a ces fulgurants, ces accélérations. Enfin, c'est, on l'a vu contre l'Argentine, contre le Pérou. Et surtout, moi, je m'accroche à la première demi-heure contre la Colombie.
Karine,
pour le reste, Dieu seul le sait.
Et vous accrochez à quoi? Une amélioration depuis 2014 ou pareil?
Je serais peut-être pas aussi dur que Shérif. Moi, ce qui me fait peur, effectivement, c'est l'aspect concentration. C'est-à-dire que là, l'équipe de France devrait être concentrée, et notamment le bloc défensif, pendant 90 minutes. Et on voit que pendant leur match, quand même, il y a des absences.
Qui dure longtemps. Hein.
Et qui dure plus ou moins longtemps, effectivement. Et il y a notamment, et vous le disiez, des extrêmement bons joueurs de tête du côté de l'Uruguay, avec peut-être Stuani en plus qui devrait remplacer Cavani et qui est également un très bon joueur de tête.
C'est confirmé.
Et nous, dans les duels aériens notamment, et dans ces moments-là, il y a souvent des absents, des oublis de marquage et des sautes de concentration. Donc ça, ça me fait peur. Après, j'ai trouvé quand même que l'équipe de France, elle avait un mental dans cette compétition.
Quand elle est revenue au score.
Quand elle est revenue au score. Et elle a été aussi sèchement critiquée quand même, alors qu'elle était invaincue lors de la phase de groupe. Donc je trouve qu'il y a quand même un mental par moment. Après, il y a l'interrogation effectivement de l'ailier gauche. Est-ce que tu prends Tolisso parce qu'il a un peu...
Ils n'ont pas le niveau, Karine.
Je dirais pas qu'ils n'ont pas le niveau.
Aucun des trois n'est rentré dans la compétition encore.
Pour moi, Fekir, il a fait des bonnes entrées. Mais c'était pas un titulaire. Mais pour moi, il a fait des bonnes entrées. Mais après, voilà, il y a un vrai choix. C'est, est-ce que tu prends un vrai spécialiste du poste avec Lemar? Est-ce que tu prends un mec qui a un peu du vice et qui est bon dans les duels, Tolisso? Est-ce que tu fais confiance à Fekir qui a fait des bonnes entrées, mais pas en tant qu'ailier gauche? C'est compliqué. Il n'y a pas de bonne solution de toute façon.
Et avec qui vont s'entendre sur
Antoine,
tout ça?
Antoine,
il y a pas des automatismes.
Est-ce qu'il y a un signe du côté d'Istra de savoir qui serait le personnage qui va remplacer Matuidi dans ce match? On sait que tout est verrouillé, tout est caché en ce moment du côté de l'équipe de France.
Alors du côté de Nijni Novgorod, il n'y a pas grand-chose qui a transparu, si ce n'est une réponse quand même intéressante de Didier Deschamps en conférence de presse lorsqu'il est interrogé sur la possibilité de voir Nabil Fekir être titularisé éventuellement à la place de Blaise Matuidi. Là, il est presque plutôt clair, c'est presque surprenant, en disant c'est pas le même poste, c'est pas le même profil, donc a priori l'hypothèse Fekir est pas celle qui a l'air de tenir la corde. On reste sur soit du Tolisso, soit du Thomas Lemar, mais vu la prestation de Thomas Lemar contre le Danemark, a priori Corentin Tolisso a quand même une petite longueur d'avance.
Plus de chance.
Ouais.
Les Français, en tout cas, se préparent à, évidemment, on y faisait allusion, à venir au bout de la défense uruguayenne, qui est leur grande force aussi, ce véritable mur qui est érigé devant les cages gardées par Fernando Muslera, qui en sera à sa 102e sélection. Et Didier Deschamps, tout à l'heure en conférence de presse, Antoine, l'a évoqué, cette défense uruguayenne.
C'est culturel. Pour eux, ils ont ça dans les gènes. Il y a la qualité sud-américaine dans le geste défensif, l'agressivité, oui, l'intelligence, l'utilisation du corps, des bras. Ils savent faire ça, et puis il y a ce don de soi. Voilà, ils n'ont pas le ballon, il n'y a pas « non, mais les attaquants » ou « lui, non, ils défendent tous ». Voilà, et ça permet, quand tout le monde défend, plus l'espace est restreint, et bien, dans la densité... C'est plus facile à défendre, mais c'est le constat qu'on peut faire sur cette Coupe du Monde aussi. Toutes les équipes, elles ont été bien préparées, et même les équipes dites plus petites ou moyennes, elles ont mis des systèmes défensifs bien en place, et quand il y a peu d'espace, évidemment, c'est compliqué. Et même face à des nations qui sont très très bonnes dans la possession, on peut pas dire que cette Coupe du Monde, pour le moment... donne raison à ces équipes-là.
Beaucoup d'éloges pour cette défense que vous avez dans les gènes, Carlos. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse qu'en fait Didier Deschamps?
Ben oui, mais l'Uruguay n'a pris qu'un but dans
l'année.
Dans la compétition.
Dans la compétition, oui. Et dans l'année. Ce qui fait peur.
Et justement, ça va se jouer à peu de choses, ces matchs. Hein. Même s'il y a deux buts, ça va se jouer à très peu de choses. Et quand on observe le but de Pepe de la tête du Portugal...
Du Portugal, en huitième de finale.
On se rend compte que dans la séquence du jeu, au moment où le centre part, et c'est Cristiano Ronaldo qui attire l'attention. Donc le deux stoppers vont sur lui. Et Pepe arrive tout seul.
Tout seul. Dans le dos de Godin.
Exact. Dans le dos de Godin. Et il n'y a plus personne. Et ça, c'est le millième de seconde qui fait la différence dans un match comme celui de demain.
Oui, mais c'est toujours ça, Carlos, en fait. C'est une petite erreur qui prête à un but.
L'égalisation de la Colombie contre l'Angleterre. Mm-hmm. Mina, tu sais très bien que ça va être lui qui va prendre le ballon de la tête.
Et il le prend.
Il est arrivé tout seul, tranquille. Oui.
Comment vous voyez l'équipe de France contourner cette défense uruguayenne?
De la vivacité. Et d'essayer de passer le plus rapidement possible à l'attaque, de récupérer le ballon, de ne pas essayer de jouer à la possession du ballon, d'essayer de que la défense de l'Uruguay, ils ne se mettent pas en place. Parce que si eux, ils se mettent en place, ça, tu ne trouves pas d'espace.
C'est impossible.
C'est le Portugal n'a pas fait, c'était trop long le Portugal.
Et c'est pour ça, contre l'Uruguay, tu prends le ballon, et c'est lui qui le prend Tolisso, s'il joue Tolisso, s'il le prend Pogba. Passe continuellement à l'attaque tout de suite. Pense pas à construire. Comprends? C'est pas un match pour que ça ralentir. C'est un match pour que ça aille vite. Parce que si ça va vite, tu peux le prendre la défense de l'Uruguay en porte-à-faux.
D'où la question. On attend Griezmann. Ça, c'est un match pour lui. Ça.
Oui.
On parle de vivacité, d'échange dans les petits espaces.
La question, c'est juste Giroud. Avec Giroud, t'as pas de la vivacité, t'as pas de la vélocité.
Il est bon en remise, Giroud, il est bon en remise.
En remise, oui, mais quand il remise tu n'as pas de contre-attaque avec lui.
De toute façon, on a que lui, donc on va pas changer de système.
Oui, non, je sais, mais tu n'as pas de contre-attaque avec lui.
C'est sûr. Mais il y a pas de contre-attaque de façon avec les Uruguayens, puisque de toute façon, le bloc, il est bas.
Kanzani,
pour moi, il y a un détail qui n'est pas aussi évident que ça quand on imagine ce qui va se passer demain. Il y a un détail qui, pour moi, c'est super important. Ce sont les contrôles de Suarez dos au but. L'autre jour, il a perdu 5 balles. Il a perdu 5 ballons comme ça, dos au but, parce qu'il s'est couché, pour protéger le ballon, il s'est couché sur le défenseur. Il s'occupait moins du ballon que d'habitude. Il a perdu 5 ballons comme ça. Un ballon perdu comme ça au milieu de terrain, ça peut coûter très cher. Un ballon bien protégé pour atteindre le relais des milieux qui montent et pour que lui, il donne de l'air à l'équipe et qu'on puisse monter devant 30 mètres, ça peut aussi coûter un but à l'équipe de France.
Et oui.
Donc ce détail-là, pour moi, il est super important parce que c'est un point d'équilibre. Et dès qu'il y a une rupture à ce moment-là, Carlos le sait très bien, dès qu'il y a une rupture au milieu de terrain, et une de deux défenses est un peu en l'air, ça coûte très cher.
Antoine Grenier, on sait que l'équipe d'Uruguay a deux grands dangers que sont Suarez et Cavani. Cavani, a priori, est blessé, n'est pas récupéré, n'a pas récupéré de sa blessure au mollet. Malgré tout, Didier Deschamps a dit pendant la conférence de presse que lui, il avait une tactique où il considère que Cavani serait là.
Oui, alors Cavani s'est entraîné aujourd'hui à part du groupe uruguayen, un entraînement extrêmement léger. On sent que voilà, il ne faut pas forcer sur son mollet. Effectivement, Didier Deschamps, il a annoncé que l'équipe de France se préparait à tous les scénarios possibles, la présence de Cavani, mais aussi son absence et la titularisation d'un Stuani ou la titularisation d'un autre joueur encore à la place d'Edinson Cavani. C'est l'atout numéro un offensif des Uruguayens dans cette Coupe du Monde, Edinson Cavani. Donc c'est forcément, ça retire un poids à tout le monde s'il n'est pas là. Il reste évidemment Suarez, il reste également Betancourt qui est le milieu de terrain, le meneur de jeu de cette équipe d'Uruguay, qui peut être dangereux, en tout cas qui est l'accélérateur du côté de l'Uruguay. Bref, l'équipe de France se prépare dans les mots de Didier Deschamps. Ce qu'on a entendu, c'est que l'équipe de France se prépare à un combat, ils l'ont dit, et certainement à un combat défensif où il va falloir surtout jouer la défense face à une équipe uruguayenne qui est bien organisée. Et cette semaine, les travaux de l'équipe de France, les entraînements auxquels on a pu assister, passaient beaucoup par les côtés avec un dédoublement aux abords de la surface, et on allait trouver dans le dos du latéral sûrement une indication pour le match de demain. On ira chercher derrière la chatte et derrière Caceres avant d'aller centrer.
Karine, effectivement, les nouvelles qu'on avait autour de Edinson Cavani sèment peut-être un peu le trouble.
En fait, il y a deux choses. Je trouve qu'ils ont très bien abordé ce problème, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué 48 heures avant le match, voilà, Cavani sera pas là, donc il y a tout de suite eu un plan B. C'est pas une course contre la montre que finalement tu perds et qui ne sert à rien et que l'on voit parfois. On se souvient de Diego Costa qui avait tout fait pour jouer la finale de la Ligue des Champions. Au bout de 5 minutes, il était sorti. Là, tout de suite, ils ont évacué le problème en se disant bon, on n'a pas Cavani, on a une autre solution, c'est Stuani. Évidemment, si Cavani est apte au final à débuter ou à entrer en jeu, c'est très bien. Mais ils sont partis dans une autre option et au moins pour l'Uruguay, c'est beaucoup mieux. Déjà, ça te parasite pas le groupe, ce problème Cavani, et tu travailles avec une autre option qui est Stuani et qui est effectivement, comme vous disiez, un très bon attaquant. Après, il y avait un papier dans l'équipe ce matin qui était marrant, qui disait oui, forcément, quand t'as Tom Cruise et Brad Pitt, bon ben tu te retrouves un petit peu emmerdé. Là, avec Suarez et Cavani, tu peux pas jouer, mais ça reste un excellent attaquant qui a mis 21 buts en Liga. Donc il faudra juste voir après s'il a les mêmes automatismes que Cavani avec ses coéquipiers et s'il a cette même envie de défendre, parce que visiblement il est un peu moins défenseur que Cavani et fait moins le repli défensif que Cavani.
Carlos, est-ce que c'est de l'intox de la part des Uruguayens ou pas de dire Cavani ne sera pas là?
Le fameux pinchasso, la blessure,
l'œdème sur le mollet.
Même s'il n'y a pas de rupture, même s'il n'y a pas de rupture musculaire, c'est 15 jours.
Donc vous ne vous faites pas d'illusions?
Non, mais ce n'est pas que je ne me fais pas d'illusions. Je trouve que ça serait une terrible erreur d'essayer de faire jouer Cavani pendant 10 ou 15 minutes avant la fin du match, au cas où la chose ne tournerait pas
mal.
Parce que si jamais l'Uruguay va en demi-finale, il va rater la finale, il va rater le début du championnat français.
Ouais.
Aussi.
Il faut rentrer avant le tir. Pour moi, quand il est sorti, il était foutu déjà.
Ouais. Ouais.
C'est les journalistes qui sont entretenus pendant 4-5 jours en disant oui, il va jouer, il ne va pas jouer. Il fallait parler de Cavani. Mais du moment qu'il est sorti du terrain, quand tu as joué au football, tu sais très bien qu'il a une blessure. Et je ne sais pas s'il pourra être pour la demi-finale. Parce qu'attention, les mollets, c'est délicat, hein. C'est pas où.
Bah oui, c'est la pompe.
C'est pas un café au lait.
Pour courir, hein. Ouais,
c'est pour ça que je te dis. Parce que surtout lui, tu le vois rarement sortir. Rarement il sort d'un match. Alors, c'est un mec que s'il est sorti, ça veut dire parce qu'il a pété.
Carlos, qui est ce Christian Stuani? Parce qu'il a pratiquement l'âge hein, d'Edinson Cavani.
C'est quelqu'un qui ne m'a jamais convaincu.
Oui.
C'est
la première fois qu'il marque autant de buts dans un championnat. Cette année, c'est sa meilleure saison en Liga avec Gérone, 21 buts.
C'est un joueur de surface qui a marqué beaucoup de buts dans une petite équipe de la Liga.
Mm-hmm.
Ça, c'est tout à son honneur.
Oui.
Parce qu'il a pas de grands joueurs autour de lui pour le servir.
Mais il a eu beaucoup d'ombre.
C'est un joueur de petit espace. Mm-hmm. Il a du mal à démarrer de loin. Et demain, c'est un match où il faut donner le plus de ballons possible à Suarez.
Ça ressemble beaucoup à Giroud.
Exactement.
Il n'est pas rapide.
Il est très bon de la tête.
Il est bon de la tête.
Voilà. Et je pense que demain, à un moment donné, on va voir débarquer dans le match à sa place. On va voir débarquer soit Rodriguez, soit Sanchez.
Quels sont les
parce que c'est un rôle très compliqué et jouer Cavani à la place de Cavani, c'est impossible.
Alors Antoine, rendez-vous avec vous demain pour la retransmission intégrale de ce match.
En compagnie de Christophe Jousset depuis le stade de Nijni Novgorod pour ce quart de finale de Coupe du Monde qui est aussi un peu une revanche entre deux générations, les deux générations 93. Qui s'était affronté en finale de la Coupe du Monde U20 et c'était les Français de Paul Pogba et Samuel Umtiti qui s'étaient imposés à l'époque.
Oui, et effectivement, on entendait tout à l'heure encore les cris de victoire de Pogba. Donc demain, à partir de 14h, temps universel sur les antennes africaines de RFI. Merci beaucoup Antoine, vous étiez en direct hein, bien sûr de Nijni Novgorod où se déroulera ce match. Merci beaucoup. Bon. Il est déjà parti. Il est déjà parti vers le stade. Nous, on continue parce qu'il n'y a pas qu'un seul match demain.
Votre pronostic?
Et l'autre?
Je ne suis pas un devin, je suis un malin, c'est tout.
Nous sommes d'accord.
Ah oui, le petit jeu de Guillaume qu'on essaye de faire de temps à autre. Vos pronostics pour ce match, Carlos? Qui va gagner?
Brésil-Belgique?
Non, on n'y est pas encore.
Ah, Uruguay-France, ouais. Pour moi la France.
La France? Et quel score?
Je sais pas, il faut marquer un but plus que les autres.
Alors 1-0, ça suffira, Carlos.
C'est un match qui peut faire prolongation, qui peut se définir en prolongation, au physique, au pénal. 1-0, ça me paraît pas mal.
Pour les Uruguayens.
Pour les Uruguayens.
Et vous, Karine?
Moi, je vois également la France, mais on ira jusqu'au pénal et sans but. Donc
sans but.
Qualification au pénal, oui, j'imagine.
Oh là
ouais.
Là. Il faut avoir le cœur bien accroché, donc demain, si on vous écoute, shérif.
Personne nous écoute là?
Non, personne.
La France est fan.
Ni personne ne nous regarde d'ailleurs.
La France sur des fulgurants, sur ce que j'ai vu en première mi-temps contre la Colombie.
Et alors, 2-0, 3-0?
Non, il y a de quoi espérer.
Il y a de quoi espérer.
Par contre, on attend un grand Griezmann, toujours, qui n'est toujours pas là. Mais bon.
Bon, vous donnez la France. Donc, il y a l'Uruguayen qui donne l'Uruguay, mais ça, c'est logique.
Si allez. Cavani avait joué, je ne serais peut-être pas dit la même chose. Mais bon.
Ouais.
Il ne joue pas.
Eh bien, l'autre match, c'est donc Brésil-Belgique.
Mais qui va nous battre pour le moment? Le Brésil? Mais qui va nous battre?
Un Belge, c'était en 2002, puisque ces deux équipes se sont déjà retrouvées en Coupe du Monde. C'était en Allemagne, donc, un Brésil-Belgique en huitième de finale de la Coupe du Monde. Et le Brésil s'était finalement imposé sur le score de 2-0. Autre temps, autre ville, ce sera demain soir à Sochi que le Brésil et la Belgique se retrouveront donc pour ce match de quart de finale. Cette fois, le Brésil paraît-il plus fort? En tout cas, eh bien, c'est ce que Vincent Compagnie, le défenseur des Diables Rouges, dit publiquement.
Simplement, je crois dans nos chances, énormément même. Mais juste de manière objective, individuellement, leurs défenseurs sont solides, ils gagnent leur duel, ils n'ont pas peur du 1 contre 1. En plus, devant, ils sont capables de faire l'action individuelle qui débloque même un groupe collectif solide. Et ça fait en sorte qu'ils ont toujours une arme en fait, qu'ils peuvent utiliser. Mais après, c'est un sport collectif. Collectivement, ils sont solides aussi, mais je pense qu'il y a toujours moyen de faire mal à une équipe, même si l'équipe est très forte.
Shérif, est-ce que le Brésil est vraiment plus fort que cette Belgique qu'on a actuellement et cette Belgique qu'on dit génération dorée?
Bah, le Brésil est à sa place, il est à son niveau, donc tout va bien. Et cette Belgique n'est pas une équipe. On l'a bien vu avec le Japon. Ils ont exploité toutes les failles d'un collectif défaillant. Pareil, des joueurs qui sont mal placés, beaucoup de suffisance en plus. Et après, il y a la mentalité. Enfin, pour avoir discuté avec des Belges, des journalistes, les supporters, ils disent, bon, bah, on a une mentalité, ça me suffit. Quand on arrive en quart de finale, c'est déjà pas mal. Si on perd contre le Brésil avec les honneurs, il y a un peu cette mentalité-là. Donc moi, j'ai envie de voir une vraie Belgique qui se révolte, qui joue en équipe. Et là, ça peut faire un super match.
Mais a priori, le Brésil serait plus fort, Karine?
Pour moi, oui, parce que depuis le premier match...
Par ses individualités ou justement par le collectif?
Par aussi son collectif, parce qu'il y a une vraie progression du côté du Brésil entre le match face à la Suisse et ce qu'ils ont proposé face au Mexique. C'est un super match face au Mexique de la part des deux équipes. Et il y a des joueurs qui montent en puissance. Willian, qui était très insuffisant lors de la phase de groupe, il a été vraiment au rendez-vous face au Mexique. Et moi, c'est son match que j'ai envie de retenir avant tout. Neymar est au rendez-vous, évidemment, mais c'est Neymar et on l'attend là. Et ils sont extrêmement solides défensivement. Un seul but, comme l'Uruguay. Donc, le Brésil est archi favori. La Belgique, j'ai aimé cette capacité à renverser une situation qui était compliquée, même si leur adversaire était extrêmement naïf et ils s'en sont servis, mais il faut toujours arriver à le faire, ce qui n'est pas de donner à tout le monde.
Mener 2-0 à la 69e minute.
Mais ils ont des énormes faiblesses et défensivement, c'est n'importe quoi. On l'a vu face aux Japonais qui marquent deux buts et qui se sont procurés énormément d'occasions alors qu'ils n'ont pas les mêmes talents que les Brésiliens. Donc j'imagine en tout cas un match très ouvert et un match avec beaucoup de buts. Rien à voir avec celui entre la France et l'Uruguay.
Ouais, on peut voir la naissance d'une vraie équipe de Belgique, celle qu'on attend depuis des années.
Mm-hmm, effectivement.
J'en doute.
Mais c'est ça peut-être, Carlos, le handicap de la Belgique, c'est d'attendre depuis longtemps que cette génération finalement se rebelle peut-être, ou en tout cas qu'il y ait une cohésion, et on n'arrive pas à la voir.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils jouent à 5 derrière. Ils pensent tellement défensivement. Il joue à 5 derrière, ils l'ont marqué les Japonais, ils l'ont marqué 2 buts, ils auraient même pu le marquer à l'autre.
Facile, sur une transversale, alors, tu les mets en difficulté.
C'est pour ça que je ne comprends pas tellement. Et en plus, c'est un miracle, Compagnie, il a joué 90 minutes.
Oui.
Ça fait des années qu'il ne jouait pas 90 minutes.
Ça arrive rarement.
À Manchester City, il est beaucoup blessé.
Mais c'est une équipe qui est Il a le jeu du milieu de terrain et ça sort vite, ça joue bien.
Il y a des
joueurs qui peuvent faire la différence tête à tête. Et attention, et le Mexique, il y a eu des moments qui au Brésil, il a mis à mal à l'aise.
Mm-hmm. Bah, les premières 20 minutes, bien sûr.
Il les a bousculés, mm-hmm. attention. Alors, le Brésil, jusque-là, ça va. Mais la question que le Brésil, il a fait comprendre aux joueurs, et c'est lui le seul qui ne le comprend pas encore, c'est Neymar, je pense, de jouer en équipe. De se sacrifier pour l'équipe. On voit Jésus, Coutinho, courir comme jamais ils ont couru en sa vie.
Ouais.
Par contre, Neymar, il attend le coup doré de prendre un ballon, il dribblait 4-5 mecs,
un ballon d'or.
Et il marquait un but.
Ouais, Carlos, c'est une vraie question que j'ai envie de poser. Est-ce que Tite ne laisse pas Neymar, justement, il l'autorise à pas défendre et il l'autorise aussi à dribbler autant qu'il veut parce qu'il revient d'une blessure pour le mettre en confiance? Moi, c'est la question
que ces joueurs-là, ouais. tu les laisses. C'est tout à fait normal, j'ai eu des joueurs comme ça. Mais la question, c'est ouais. l'intelligence du joueur. Et le joueur, il doit savoir très bien que chaque Neymar, il prend le ballon, il pense faire le grand coup. Il y a ouais. deux, trois mecs, quatre ouais. mecs, il marque un but.
Ouais, ouais.
Et c'est pas possible, le grand coup. Maradona, il a marqué une fois contre les Anglais un but comme ça.
Et la Belgique.
Messi, il a fait pareil. Alors, tu n'arrives pas à marquer des grands buts tous les jours. Et Neymar, il attend ça.
Au il le fait jouer, beaucoup en plus, Neymar.
Au lieu de jouer simple, de voilà. jouer simple, toucher, okay. jouer, toucher, bouger, 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 il va arriver le moment qu'il va faire le grand coup.
Est-ce que vous avez vu cette statistique amusante? Ça a été sorti par une télévision oui. suisse.
ouais.
Comme quoi, depuis le début de la compétition, Neymar a déjà passé 14 minutes au sol
oui.
à chaque fois qu'il ouais. tombe et que.
Oui, ce que je ne comprends pas, c'est parce qu'il montre, et parce que, attention.
Il gagne du temps.
Il s'élève. Là, oui. Il gagne du temps, mais il s'élève, il continue à jouer. Ce que c'est marrant, c'est qu'il donne l'impression d'être quelqu'un pas très costaud, mais à la fin, il reçoit, il fait le cinéma, il se relève, il continue à jouer.
Et il rend les coups, attention,
il
continue c'est un vrai méchant, on est marrant.
Dans certaines choses, il continue à être un gamin.
Comment vous le voyez-vous, ce match, alors, Carlos?
Pour moi, la Belgique, c'est une équipe qui a une flopée d'individualité.
C'est
des grands
noms
de la première ligue, tous,
oui.
dans toutes les lignes. Et moi, quand je vois la Belgique, je me rappelle l'époque où la France avait ses blocages écologiques avec l'Allemagne, la génération Platini. Je pense que la Belgique a besoin d'un grand match devant une équipe comme le Brésil pour passer à un autre
échelle.
Un cap,
comme on dit.
Voilà. Mm-hmm. Pour se rassurer, ça ferait beaucoup de bien à la Belgique de se rassurer en battant le Brésil. Mais le Brésil a survolé les qualifs de l'Amérique du Sud. Ce sont les plus durs du monde.
Ils avaient mal commencé, ils sont bien rattrapés
mais
quand ils ont changé d'entraîneur.
Mais ils sont arrivés avec 12-13 ouais, points ouais. De différence devant l'Uruguay qui était deuxième.
Ouais,
ils ont survolé les qualifs. C'est l'équipe. Moi, j'étais un peu inquiet parce que le football brésilien, c'est un super business. Donc, ils ont vendu énormément de matchs de préparation avant la Coupe du Monde. Je me suis dit, ces gars-là, ils vont arriver à exploser à la Coupe du Monde.
Et non.
Et en fait, non. Ils sont super en forme. C'est une équipe super dynamique.
Ils finissent très fort.
Vers l'avant et qui a les armes pour arriver à la finale.
On se quitte avec une chanson que vous avez signée l'année dernière, c'est ça, Carlos?
Ah non. Ah oui.
Donc vous avez fait la musique, hein?
Oui.
Ce qu'on a trouvé en 2017, une
oui,
chanteuse
c'est
argentine.
C'est une de mes productions,
voilà.
Je suis producteur des disques aussi.
Exactement, vous avez un studio à Paris qui s'appelle
oui,
Angel Studio. Oh. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce Radio Foot International. On se retrouvera demain après les matchs, chers auditeurs. Merci à Pierre Guérin, à David Finzel, à Guillaume Ploquin et à l'équipe de Facebook Live. À demain.